le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce magazine des Nations Unies. Au sommaire, le succès militaire des FARDC au Nord Kivu et les leçons à en tirer, l'annonce de la fin de la rébellion du M23, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones libérées et la situation humanitaire des déplacés dans cette province. Ces sujets ont été au centre des débats mercredi dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Les détails dans un instant. Améliorer l'environnement juridico-sanitaire pour les personnes vivant avec le VIH, c'est l'un des objectifs du dialogue national sur les lois, les droits humains et le VIH, prévu du 26 au 27 novembre 2013 à Kinshasa. L'ONU SIDA et le PNUD sont impliqués dans ce dialogue national. Dans cette émission, vous suivrez ce que les personnes vivant avec le VIH attendent de ce forum. Enfin, bientôt, une politique nationale sur le volontariat en RDC, cela avec l'appui du programme des volontaires des Nations Unies. Le décryptage de ce dimanche porte justement sur le volontariat et les volontaires des Nations Unies. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Le succès militaire des FARDC sur le M23 au Nord Kivu, les leçons à tirer de la défaite du mouvement rebelle, l'amnistie pour les responsables du M23 et la situation humanitaire des déplacés. Voilà quelques points qui ont été abordés au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Les besoins humanitaires pour plus de 20 000 déplacés de guerre ont également alimenté le débat. Jean-Pierre Elali Coco pour les détails.
Devant un parterre de journalistes, Martin Kobler, chef de la MONUSCO, s'est dit satisfait de l'annonce de la fin de la rébellion du M23 et de l'acceptation de cette déclaration par le gouvernement. Et pour le chef de la MONUSCO, cela constitue une étape historique.
Et j'étais très satisfait par la déclaration de la fin de la rébellion du M23, mais aussi par l'annonce du gouvernement qui a accepté cette déclaration. Et je crois que ça marque maintenant une étape historique. Ça marque la fin de cette guerre atroce qui a duré 20 mois. Cette guerre atroce qui a laissé une population en particulier à l'est de ce pays traumatisée.
Après les succès militaires, place maintenant aux prochaines étapes, notamment au rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones libérées. En même temps, un sévère avertissement aux autres groupes armés qui écument la région.
Maintenant, c'est important de finaliser les étapes prochaines de l'accord qui a été discuté à Kampala. Je me déplace maintenant dans quelques minutes à Goma pour discuter avec le commandant de la force les prochaines étapes, mais aussi discuter avec le gouverneur de Nord Kivu. Comment efficacement restituer l'autorité de l'État dans la province, en particulièrement dans tous les territoires qui sont libérés maintenant. J'ai aussi le lundi averti les autres groupes armés, y inclus le FDLR, de ne pas profiter de cette situation, du vide actuel, la MONUSCO va réagir décisivement et fermement pour protéger la population.
Autre question soulevée, les leçons apprises du succès militaire des forces gouvernementales. Les chefs de la MONUSCO du Nord Kivu, Rey Torres, les énumère.
Ces opérations ont démontré le très haut niveau de professionnalisme des FARDC. Deuxièmement, que ces opérations militaires ont été menées à bien en gardant comme priorité première, la protection des civils. Il y a eu évidemment des victimes civiles à déplorer, mais si vous prenez en compte, vous regardez la dimension, l'envergure des opérations qui ont été menées à bien, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Troisièmement, je pense que la leçon à apprendre est surtout pour les autres groupes armés. La détermination des FARDC, l'appui de la MONUSCO est efficace. Et c'est une occasion de plus de répéter à tous les groupes armés qu'il est encore temps pour eux de déposer les armes.
Enfin, pas de dommages collatéraux lors de la dernière offensive des FARDC, appuyée par la MONUSCO à Tianzou et à Runyoni, a déclaré pour sa part le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO. Pour lui, il faut dissocier les derniers bombardements engageant la responsabilité du M23 à Bunagana et Chingerero des dommages collatéraux qui, du reste, n'ont pas eu lieu.
Un dialogue national sur les lois, les droits humains et le VIH-Sida se tiendra du 26 au 27 novembre à Kinshasa. C'est le ministère de la Justice et Droits humains l'organisateur de ce forum national. Il bénéficie du concours technique et financier du PNUD et de l'ONU-Sida en RDC. L'un des objectifs de ce dialogue sera d'améliorer l'environnement juridique par rapport à la protection des personnes vivant avec le VIH. César Mobunza est membre de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH, UCOP. Il donne les enjeux des prochaines assises et ce que les PVV en attendent. Il est au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Nous avons les rapports sur l'index de la stigmatisation qui démontre que 27% des personnes vivant avec le VIH sont exclus des activités familiales, par exemple, faire la cuisine ensemble avec les personnes avec le VIH, manger ensemble, dormir ensemble. Nous avons aussi des exclusions au niveau des milieux religieux. 75% au moins d'exclusions sont dues au statut sérologique de la personne. Mais nous avons aussi des formes de la stigmatisation au milieu des activités sociales. On ne vous invite pas à la fête, tous ces genres de choses, ça existe. Et au milieu du travail aussi, il y a des résultats qui ont montré. Il y a des gens qui n'avancent pas à grade, pas les missions de service, en disant il va mourir là-bas, on lui donner un petit bureau au coin. C'est pour cela que nous trouvons que c'est important d'exposer ces résultats-là, de dire voilà ce que la communauté de PVV souffre, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution et qu'est-ce que nous, comme les personnes avec le VIH, nous pouvons aussi apporter comme solution afin que nous puissions améliorer l'environnement juridique par rapport au VIH dans notre pays.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme des volontaires des Nations Unies et le secrétariat national du volontariat, une structure du ministère du Plan, organisé mardi 5 novembre 2013 à Kinshasa, un atelier de renforcement des capacités pour la promotion du volontariat en RDC. Alexandra de Bournonville, chargée de l'information publique au programme des volontaires des Nations Unies, nous explique en quoi consiste le volontariat et le statut de volontaire des Nations Unies au sein du système onusien. Elle répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala, c'est notre rubrique décryptage.
Alexandra Bournonville, bonjour.
Bonjour Honoré.
Vous êtes volontaire des Nations Unies, vous avez organisé un atelier de renforcement des capacités des associations des volontaires pour la promotion du volontariat. Définissez-nous quand même ces concepts. C'est quoi le volontariat?
Le volontariat, c'est l'engagement civique. Ce sont des personnes qui s'engagent volontairement pour leur communauté, pour s'attaquer à des défis de développement ou à des défis de paix. Et voilà, ce sont des gens qui mettent leurs compétences au service du développement et de la paix, sans attendre de rétribution matérielle ou financière.
Pourquoi un atelier sur la promotion du volontariat en RDC?
Eh bien, tout d'abord parce que nous cherchons à promouvoir le volontariat. Alors, pourquoi est-ce que le volontariat est important pour un pays comme la RDC? Tout d'abord parce que le volontariat permet de promouvoir l'engagement pour la communauté ainsi que les valeurs civiques telles que la solidarité, l'entraide, le partage et le libre-arbitre sont toutes des qualités, toutes des valeurs qui sont essentielles à une société, au développement et à la paix. Donc le volontariat est un élément moteur dans le développement d'un pays, mais aussi dans la paix d'un pays. Donc tout d'abord au niveau du développement d'un pays, c'est que le volontariat permet de promouvoir l'autoresponsabilisation de chacun et l'autoprise en charge. En effet, par le volontariat, l'individu devient un acteur engagé dans sa propre vie, mais aussi il est amené à poser des actes responsables vis-à-vis de la société et aussi à agir en citoyen. Ensuite, le volontariat permet de promouvoir la paix, notamment par le rapprochement entre les peuples, entre les populations, les ethnies, etc. Car des personnes qui ont différents backgrounds sont amenées à travailler ensemble pour une même cause, donc cela permet de promouvoir la cohésion sociale et ça permet aussi d'oublier les différends, tout ça pour se concentrer sur un objectif qui est, par exemple, améliorer les conditions de vie d'une certaine population.
Alors comment on peut devenir volontaire?
Comment peut-on devenir volontaire? Volontaire ou volontaire des Nations Unies?
Volontaire d'abord.
Volontaire d'abord, bien, il suffit simplement d'être en contact avec une association locale ou alors créer son petit groupe de volontaires. Par exemple, si vous avez un groupe d'amis qui ont envie de, par exemple, de s'attaquer aux défis de salubrité de leur quartier et qui vont se dire oui, bon, maintenant, aujourd'hui, on va amener nos amis et nos proches et on va nettoyer le quartier, enlever les déchets. Ça, c'est déjà poser un acte de volontariat et c'est aussi poser un acte par rapport à la société.
Alors, Alexandra, quel est le statut du programme des volontaires des Nations Unies au sein du système onusien?
Le programme des volontaires des Nations Unies est un programme qui fait partie des Nations Unies. La mission du programme des volontaires des Nations Unies est de promouvoir le volontariat comme outil de paix et de développement. Alors, plus particulièrement, au Congo, on trouve des volontaires des Nations Unies au sein de la MONUSCO, mais aussi au sein des agences. Au sein de la MONUSCO, il y en a 534 et au sein des agences, il y en a une centaine, répartis dans tout le pays et occupant toutes sortes de fonctions plus administratives et de support, des fonctions plus substantives.
Si je comprends bien, on sait des agences onusiennes, au sein des missions, il y a des volontaires des Nations Unies.
Oui, c'est ça. Et en tout, au Congo, il y en a environ 650, dont 26 volontaires des Nations Unies locaux, donc congolais.
Est-ce qu'un volontaire des Nations Unies, c'est un fonctionnaire des Nations Unies?
Non, ce n'est pas un fonctionnaire, c'est un volontaire. Nous avons le statut de volontaire et nous ne faisons pas partie du personnel des Nations Unies.
Après l'atelier de Kinshasa, quelle sera la prochaine étape?
Nous allons faire le même atelier à Goma, la semaine prochaine, le 13, le mercredi 13 novembre.
Vos rapports avec le gouvernement congolais?
Bien, donc nous travaillons en partenariat avec le secrétariat national du volontariat, qui dépend du ministère du plan. Donc, nous sommes en contact avec le gouvernement via le secrétariat.
Oui, le travail, c'est par rapport à des projets bien précis ou c'est comment?
Nous appuyons le secrétariat national du volontariat dans différents programmes. Il y aura bientôt un service civil national et aussi nous appuyons aussi au niveau de la promotion de leurs activités. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec le secrétariat national du volontariat.
Donc il vous arrive de financer des projets?
Nous non, le programme des volontaires des Nations Unies ne finance pas directement des projets, c'est via des bailleurs.
Alexandra Bournonville, merci beaucoup.
Merci.
Place aux nouvelles en bref, commençant par la suspension des travaux de réhabilitation de l'axe routier Bounia-Jina. Ces travaux étaient lancés il y a 2 mois par la MONUSCO. Cet axe routier, long de 50 km, est une voie par laquelle passent les marchandises importées du Kenya, de l'Ouganda et même d'Asie. Selon les autorités locales, c'est l'office de route qui serait à la base de cette suspension. Par ailleurs, d'autres sources indiquent que des propriétaires fonciers des collines devront servir de carrière pour l'extraction de gravier exigerait à la MONUSCO le paiement de redevances coutumières avant d'amorcer tout travail. Volet humanitaire, plus de 35 000 personnes devraient commencer à retourner dans leur village après avoir été contraintes à la fuite pendant les affrontements et l'occupation de leurs terres par les rebelles du M23. Nous sommes au Nord Kivu. Selon les agences humanitaires, ces personnes s'étaient installées notamment à Tamugenga, Rutshuru et Rubare. Elles ont exprimé leur désir de retourner dans leur milieu d'origine afin de reprendre le cours normal de leur vie.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La ville de Goma et ses environs, toujours sous une menace permanente des volcans Nyiragongo et Nyamulagira, selon Dario Tedesco, chef de projet de l'UNOPS, la prochaine éruption volcanique de Nyiragongo pourrait même commencer directement dans la ville, ce qui pourrait être la plus grande catastrophe du siècle. Il tire une sonnette d'alarme, même si rien n'indique l'imminence d'un tel phénomène. Dario Tedesco est l'invité du magazine des Nations Unies. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Dario Tedesco, bonjour.
Bonjour à vous.
L'UNOPS gère 2 projets concernant la gestion et la sensibilisation au risque volcanique à Goma et ses environs. De quel projet s'agit-il précisément, monsieur Dario?
En effet, il s'agit d'un projet pas seulement sur les volcans, mais sur tous les risques naturels en RDC, et en particulier, bien sûr, dans la région de Virunga, donc du Nord Kivu, y compris la ville de Goma. Nous nous occupons de faire ce qu'on appelle capacity building, donc d'aider les structures étatiques, en particulier l'Observatoire volcanologique de Goma, à d'un côté améliorer ses capacités au niveau technique et scientifique. Mais on travaille aussi vis-à-vis de, par exemple, d'émanation de gaz que localement sont appelés mazuku, qui tuent au moins 100 de personnes par an. Donc on fait surtout au niveau de sensibilisation, éducation, soit par les communautés locales, soit dans les camps des déplacés qui habitent des endroits assez dangereux. Mais on parle aussi du lac. Vu que tout le monde parle du lac Kivu au niveau extraction de gaz, pour l'utiliser, c'est très bien, mais surtout on parle souvent très mal du lac au niveau des dangers dus à ces gaz. Donc ça aussi, c'est une question d'éducation et sensibilisation vis-à-vis des populations riveraines côtières, mais aussi vis-à-vis des autorités, comme nécessaire, ou vis-à-vis des bailleurs, ou vis-à-vis de la communauté humanitaire.
Alors, qui finance ces deux projets et à quelle hauteur?
On a recommencé ce projet en 2009, on l'a repris. C'était un vieux projet qui était financé avant par DFID, donc la coopération allemande et la coopération suisse, la coopération britannique et la coopération suisse. Jusqu'aujourd'hui, ça a été l'Union européenne depuis 2009 en mesure de 2,7 millions. Et la coopération suisse a presque 500 000. Leur partie s'est terminée au mois de juin. Par contre, la partie Union européenne se termine le 31 décembre de cette année.
Monsieur Tedesco, est-ce qu'on peut comprendre un peu la problématique de ces deux projets? Qu'est-ce qui a motivé ces deux projets?
Bon, tout naît en fonction de l'éruption 2002, en effet. Il y a déjà un observatoire sur place, ce qui est très important. On doit essayer de travailler. Un côté, c'est améliorer les capacités de l'observatoire. Mais de l'autre côté, c'est surtout parler aux gens. Donc, la population de Goma. La population de Goma avait 400 000 habitants en 2002. Il y en a plus d'un million aujourd'hui. On dit 1 million 2. Donc, 3 fois plus. 3 fois plus, ça veut dire que le risque vis-à-vis d'une future prochaine éruption de ce volcan, ça pourrait être catastrophique. Donc, il faut faire éducation, sensibilisation, information vis-à-vis de la population pour arriver à une résilience complète. Donc, savoir ce qu'il faut faire vis-à-vis de la population, vis-à-vis des autorités. Donc, les deux choses marchent ensemble.
Si je comprends bien, le projet financé par la coopération suisse s'est arrêté au mois de juin 2013.
Absolument.
Est-ce qu'on peut en faire le bilan?
Le bilan, je le fais directement avec une phrase qui m'a été dite par le chef à l'époque de la coopération suisse à Berne. C'est que ça, c'était un des projets que lui, il citait souvent dans ses conférences parce que c'était vraiment réussi. Nous avons obtenu des résultats, à mon avis, des résultats que j'arrive pas à obtenir en Italie quand je travaille dans la même chose. Donc, atteindre facilement les écoles, parce que nous sommes demandés beaucoup par les écoles, arriver facilement avec des sensibilisateurs, des animateurs locaux, donc surtout des journalistes, à parler, pas seulement en français, mais en swahili, partout dans les écoles. On arrive aux étudiants, aux élèves, et après les élèves partent en famille. Mais surtout, on a parlé dans les églises, on l'a fait dans les marchés publics, ce qu'on appelle street class, des classes dans la rue. On va et on parle, on montre des cartoons, des pancartes, où il y a tout expliqué ce qui se passe avec le volcan, ce que c'est un volcan, comment il travaille, mais surtout ce qu'il faut faire en cas d'éruption. On avait encore, bien sûr, beaucoup de choses à faire, mais pour l'instant, le projet est en stand-by. Nous espérons toujours que peut-être ils vont réfléchir, mais, et revenir sur une petite financement à l'UNOPS, mais bon, on verra.
Est-ce qu'on peut faire aussi maintenant le bilan du deuxième projet, celui financé par l'Union européenne, qui court encore jusqu'en décembre 2013, je crois.
Je trouve que c'est un projet qui nous a laissé énormément de liberté, pas seulement la partie scientifique proprement dite, donc de aider l'observatoire à améliorer, mais aussi de faire arriver ici justement des experts étrangers pour pouvoir faire le travail ensemble, donc améliorer les collaborations internationales de l'OVG. En même temps, on a reçu aussi envoyé à l'étranger pas mal de scientifiques, agents de l'OVG. Et ça, ça a donné carrément une impulsion importante. On a réussi à améliorer les capacités techniques. Il n'y a pas seulement nous, mais il y a aussi d'autres projets qui participent à ça, étrangers directement. Et donc, on est catalyseur, si vous voulez, de tout ce qui se fait à Goma pour faire comprendre à l'étranger qu'il y a un besoin important de collaboration.
Parlez un peu de ces deux volcans, le Nyiragongo et le Nyamulagira, qui sont les plus actifs en Afrique. Quel est leur niveau d'activité aujourd'hui?
Le Nyiragongo est toujours très actif. Il a un lac de lave permanent à l'intérieur. Le lac de lave, depuis 2002, a monté de 600 mètres. Avec des scientifiques de l'OVG et étrangers, on a écrit pas mal d'articles scientifiques, mais surtout, il y en a un qui est important. C'est qu'on connaît exactement la quantité de lave, le volume de lave qui est à l'intérieur. Donc, à partir de ce volume de lave, en imaginant les éruptions de 2002 et de 1977, on peut imaginer jusqu'où la lave pourrait arriver. On a plusieurs millions de mètres cubes de lave à l'intérieur aujourd'hui. C'est qu'on voit. Donc, ça veut dire que c'est hyper dangereux. À tout moment, s'il allait faire éruption, atteindrait la ville de Goma. Mais pas seulement ça, on sait aussi que la prochaine éruption pourrait commencer directement dans la ville de Goma. Parce que si on suit l'historique, c'est que la fracture s'est ouverte un peu en 1977, elle s'est propagée carrément dans la ville de Goma en 2002. Donc la prochaine éruption pourrait commencer de là où la fracture s'est terminée, donc en ville. Nyamulagira, c'est un volcan qui fait éruption tous les 2-3 ans, à l'extérieur du volcan. On a vu déjà les signes préméritaires au mois d'août. On pourrait imaginer que vers la fin de l'année, début de l'année prochaine, il pourrait y avoir une nouvelle éruption.
Donc on peut dire que la menace est permanente pour les populations de Goma et environs.
Absolument, absolument permanente. Je voudrais mentionner aussi, et ça c'est important, que grâce à la MONUSCO et surtout au contingent indien, nous avons un hélicoptère tous les 15 jours. Ça nous donne la possibilité de faire un monitoring visuel directement des deux volcans. Ça a été très important pendant les éruptions passées et encore plus important maintenant qu'on n'avait pas beaucoup d'équipement sur le terrain à cause des affrontements.
Et alors, par rapport à tout ça, un projet suspendu, faute de financement, quelles sont les perspectives ?
D'abord, il faut remercier énormément la coopération suisse et l'Union européenne, parce qu'il faut être courageux pour financer un projet pareil. Et l'ont été. Nous espérons toujours qu'on aura encore des possibilités avec eux, bien sûr. Il faut les encourager à revenir en leur montrant tous les résultats qu'on a eu. Il faut aussi comprendre que toutes les agences à Goma sont intéressées par ce projet. Nous donnons les résultats chaque semaine dans la réunion de sécurité. C'est tout le monde qui est intéressé. Tout le monde devrait participer un peu, quidog, mais donner quelque chose. On ne peut pas toujours recevoir. Il faut imaginer qu'il faut faire un effort interagence pour que ce projet soit un projet interagence et qu'il puisse être partagé parmi tous. On peut faire, si on veut, un fundraising n'importe où, à New York, à Genève, parler directement aux bailleurs pour faire comprendre, et on a les moyens pour leur faire comprendre, que ça pourrait être la catastrophe la plus grande de ce siècle, s'il va se vérifier.
Monsieur Davio Tedesco, merci de votre disponibilité.
Merci à vous.
La nouvelle en province de ce dimanche nous emmène à Goma. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, estime que la victoire de l'armée congolaise sur la rébellion du M23 constitue une étape importante dans la recherche de la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, cette organisation note qu'il reste encore beaucoup d'autres défis à relever. Ida Sawyer, chercheuse à Human Rights Watch, est jointe au téléphone par Rosalie Sawadi.
Premièrement, nous espérons que les leaders de M23, qui sont responsables pour les graves violations des droits humains, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, seront arrêtés et traduits en justice. Mais aussi, nous pensons que c'est très important que le FRDC et les autres services de sécurité congolais prennent des efforts clairs pour éviter les actes de représailles ou les arrestations arbitraires ou d'autres attaques contre les membres de l'ethnie Tutsi ou d'autres personnes qui sont suspectées d'être collaborateurs de M23. Et finalement, il reste beaucoup de défis avec toutes les autres groupes armés qui opèrent toujours à l'est du Congo et qui sont aussi responsables pour les attaques atroces contre la population civile. Donc nous espérons que le gouvernement congolais ainsi que la MONUSCO vont montrer le même engagement vis-à-vis ces autres défis qu'ils ont montré avec le M23.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Zibilila Daoudana Diessou. Ma situation matrimoniale, je suis célibataire, mère d'une petite fille de 5 ans, Henrietta. Je suis de nationalité togolaise, je suis née et j'ai grandi à Lomé. Je suis titulaire d'un bac à 4, d'une licence en lettres modernes et d'un diplôme de technicien supérieur en journalisme, option presse écrite. J'adore dire que j'ai été formée sur ça parce que je suis arrivée à la presse écrite en 2004, juste après mon bac, et j'y suis restée par passion et par amour. J'ai quand même eu la chance de participer à beaucoup de sessions de formation dans la région ouest-africaine avec d'autres journalistes, notamment avec l'Institut Panos à Dakar et l'Institut international de journalisme de Berlin à Accra. Et j'ai été en 2010 l'une des lauréats de la bourse d'Arama sur les Nations Unies. Mes fonctions actuelles au sein de la MONUSCO, je suis PIO, entendez, Public Information Officer, au sein de l'unité de monitoring depuis le 23 août 2013. Donc, je suis chargée de la publication et de l'envoi du panorama de presse qui est une compilation quotidienne des informations relatives à la RDC et à la MONUSCO. Je suis également chargée de l'envoi quotidien de la revue de presse qui est fait avec les journaux nationaux. j'arrive très tôt le matin, déjà à 5h30, je suis au boulot, je suis la première arrivée. Je visite tous les sites qui sont répertoriés dans nos fichiers pour voir les informations du jour, celles de la veille qui n'ont pas été communiquées, et je les compile pour les mettre dans le monitoring qui comprend plusieurs secteurs. Il y a d'abord le monitoring des informations concernant la MONUSCO, les informations sur la presse internationale, les informations sur la page nationale et des secteurs également, notamment Goma, Bukavu et Bunia. Mon parcours avant, j'ai travaillé à la presse, comme je viens de le dire, pendant 6 années. Après, en 2010 à 2011, j'ai travaillé pour l'Organisation régionale africaine de la Confédération internationale syndicale, qui est la CIEC Afrique, dont le siège est basé à Lomé. J'étais chargée à la communication. J'ai notamment collaboré avec le Centre d'information des Nations Unies, CIMU, qui est à Lomé et qui couvre le Togo et le Bénin. J'étais chargée à la communication au réseau des organisations féminines d'Afrique francophone, qui a son siège à Lomé, et j'ai été consultante également pour l'UNFPA Togo. Comment je gère mon temps libre? Je dois avouer que je n'ai pas tellement de temps libre, mais si j'en ai, je m'occupe de ma fille que j'adore plus que tout. J'aime lui parler, l'entendre parler, écouter ce qu'elle aimerait faire. C'est au téléphone et par Skype. Quelles sont mes préférences? Bon, je suis passée par la fac de l'Est, donc j'adore lire. J'aime également écouter de la musique, mais bon, la musique douce. J'aime le kwakanga particulièrement et j'adore manger, même si je suis... Oui, j'aime bien bifé. Et puis j'aime beaucoup aussi, si c'est le bonheur, si c'est d'une phrase, un mot, parfois le bonheur, si c'est un sourire, un regard. Je mange de tout. Et puis mes projets d'avenir, pour le moment je suis à la MONUSCO. Je m'y plais, j'espère bien rester le plus longtemps possible. À moins que la vie me propose quelque chose de mieux qu'on s'y fait. Merci.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche a été posée par une journaliste de Goma mercredi dernier au cours de la conférence des Nations Unies. Elle concerne les drones. Écoutez.
C'est Gina Moulumba pour le compte de Michapivo TV. Ma question s'adresse indistinctement à M. Kobler ou M. Torres qui est avec nous ici. J'aimerais savoir si la question des drones est-elle toujours d'actualité maintenant que la rébellion du 23 mars est démantelée. Cette question-là est-elle toujours d'actualité et si oui, où seront-elles finalement déployées ces drones?
Écoutez également la réponse de Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC.
Voilà, merci. Je crois que la question des drones, c'est actuelle parce que c'est pour surveiller la frontière, c'est pas limité à M23, on a FDLR, on a d'autres mouvements militaires, on a les armes qui sont transportées, et c'est la tâche des drones de le surveiller. Et je crois que c'est très important d'avoir les drones maintenant, et il va être sur place dans les semaines prochaines. Le général a quelque chose à ajouter?
The question of the drones, the goal is much more...
Pour la question des drones, elle est beaucoup plus complexe, elle n'est pas seulement la question en rapport avec les drones ou les M23, il y a beaucoup plus d'activités au niveau de la province de l'Est. Il y a beaucoup d'activités illégales. Les drones seront importants pour pouvoir donner des informations à la MONUSCO en ce qui concerne les activités des groupes armés au niveau de la province.
Not one or two armed groups only.
Martin Kobler est complété par le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Plusieurs journées internationales ou mondiales seront célébrées dans la semaine qui commence. Retenez-en au moins 3. Le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Le 16 novembre, la journée internationale de la tolérance. Et le 17 novembre, la journée mondiale contre les bronchopneumopathies chroniques obstructives. La fin du magazine des Nations Unies ce dimanche. Merci d'avoir suivi cette émission, supervisée par Nicole Ngaka. Honoré Missenga était au reportage, Jean-Pierre Elali Koko à la coordination, Willem Lungamba à la régie et moi, Mila Kimbuni à la présentation. Vous pouvez suivre cette émission sur le site internet www.radiookapi.net. Faites-nous parvenir vos suggestions, vos questions ou vos remarques en appelant ou en envoyant un message au 082 30 76 630. 082 30 76 630. Vous pouvez aussi nous les envoyer sous forme de commentaires à poster sur le site internet en dessous du magazine des Nations Unies, ainsi que par mail à notre adresse mag.un@radiookapi.net. Au revoir.